foi, j'y crois. Ma foi, j'y crois.
Ma foi, j'y crois.
Une émission de Benoît Petit.
Aujourd'hui, nous sommes avec Monsieur Bernard Friot. Bonjour.
Bonjour.
Voilà, vous venez, vous êtes en pleine conviction, vous venez nous parler de votre foi. Alors, votre foi comme chercheur, parce que vous êtes sociologue, vous avez été économiste dans le début de votre carrière dans l'université de Lorraine, et puis ensuite professeur de sociologie à Paris, à Nanterre. Et vous vous êtes spécialisé sur le travail, sur le salariat. En même temps, vous faisiez des études, une réflexion sur, on va dire, sur la théologie, ou en tout cas sur les relations entre la foi, les convictions, les idéologies. Et dernièrement, eh bien, depuis, c'est depuis hier, hein, à la retraite depuis 12 ans.
15 ans.
Depuis 15 ans, voilà. D'abord, ben, le livre « L'enjeu des retraites », justement, c'était pour une réflexion.
L'entrée en retraite en 2010, oui.
Avec, au moment où M. Sarkozy dit « on va changer ce régime de retraite ».
C'était en vue de contrer la réforme Sarkozy, oui.
Alors, dernièrement, eh bien, c'est « Prenons le pouvoir sur nos retraites ». Et puis, c'est un scoop, mais je crois que bientôt va sortir un ouvrage, c'est sur la foi chrétienne révolutionnaire, c'est ça?
Ben, dans sa dimension révolutionnaire, oui. Chez Desclés de Brouwer, en 2025, oui.
Alors, ça me touche beaucoup parce que j'ai travaillé sur ces questions de foi et de religion, mais aussi des religions séculières, et puis sur le marxisme comme idéologie, mais aussi sur les autres formes de croyance. Hein, on pourrait parler de Pascal Bruckner, que vous avez connu, c'était un de vos collègues. Comment est-ce qu'on abandonne sa foi au Père Noël, ou bien d'autres questions concernant l'intelligence artificielle et les dogmes. Alors, nous avons... en fait, assez peu de temps, parce que vous êtes militant et en même temps chercheur au niveau de l'observation du travail en Europe. Commençons peut-être justement par le salariat et l'enjeu des retraites. Vous êtes chercheur et vous dites, en fait, le communisme, dans son sens premier, est déjà là.
Non, le communisme n'est pas déjà là, nous sommes toujours dans une société capitaliste, mais il y a des déjà là communistes, si on veut. Il y a des prémices d'une société dans laquelle les travailleurs décident de la production. Une société dans laquelle le travail n'est plus une réalité hétéronome, étrangère aux travailleurs, imposée par une bourgeoisie qui décide du travail à notre place, mais où le travail est le fait même des travailleurs.
Quand vous dites bourgeoisie, est-ce que ce sont les chefs d'entreprise ou est-ce qu'eux-mêmes sont pris dans des contraintes qui les dépassent? Et puis aussi, tout le système qui est de l'hôpital ou bien de l'école, qu'est-ce qu'on appelle un système chez vous? Est-ce que vous avez cette idée du mode de production et des rapports sociaux?
Oui, donc... c'est en termes de mode de production et de rapports sociaux du travail, puisque mon objet de recherche, c'est le statut des travailleurs, hein, tout ce que les travailleurs organisés au XXe siècle ont conquis en termes de salaire, sécurité sociale, c'est ça mon objet. Hein. Je ne suis pas, par exemple, du tout compétent sur l'organisation du travail. Hein. Ça, c'est des choses que je n'ai pas pu travailler, parce que la recherche... une assez grande spécialisation.
Alors, le code du travail, ça fait partie aussi de ce que vous étudiez. Mais si vous dites le régime général de la sécurité sociale, ça fait partie du salaire et c'est menacé actuellement.
Le régime général de sécurité sociale, c'est la partie socialisée du salaire, hein, la partie du salaire qu'on ne touche pas directement et qui va sur un compte postal ou bancaire, mais qui va à des caisses de sécurité sociale. Elle a connu, cette partie socialisée, une progression tout à fait considérable. Par exemple, dans les années 50, le taux de cotisation en additionnant la cotisation patronale et la cotisation salariée représentait 33% du salaire brut. À la fin des années 70, c'était 55%. Donc vous avez eu une espèce de quasi-doublement du taux de cotisation qui a permis la mise en place de la sécurité sociale du soin dans les années 60, la création des CHU, la transformation des hospices en hôpitaux avec des lits actifs, la création des maternités, en fait, etc., etc. Tout ça se fait massivement dans les années 60. Et puis la retraite ne devient vraiment effective en dehors des cadres et des fonctionnaires, ne devient vraiment accessible à tous les salariés du privé qu'à partir des années 70. Elle devient significative, disons accessible déjà avant bien sûr, mais significative des années 70, parce que les caisses de retraite sont abondamment pourvues par une hausse du taux de cotisation, une hausse qui a été complètement interrompue, voire même contrariée par des exonérations de cotisations patronales, par des transferts à la CSG, enfin bref, toute cette dynamique extrêmement vertueuse de la cotisation qui socialise le salaire, effectivement, a été interrompue.
Et menacée encore actuellement ?
Ah ben bien sûr, hein, on connaît tous l'état désastreux du système sanitaire, mais les allocations familiales, c'était l'institution, les caisses, les CAF, c'était l'institution la plus aimée des usagers dans les années 70. Aujourd'hui, c'est la plus détestée.
Parce qu'il y a un mauvais fonctionnement, et vous pensez que c'est un complot, que c'est voulu.
Évidemment, hein, il y a la socialisation du salaire, surtout quand elle est gérée par les travailleurs eux-mêmes, ce qui était le cas jusqu'en 1967, hein, quand De Gaulle a supprimé la gestion ouvrière du régime général de sécurité sociale, c'est une source de grande liberté, parce que, d'abord, de grande responsabilité, les travailleurs gèrent l'équivalent du budget de l'État, ce qui n'est quand même pas tout à fait rien, même s'ils ne gèrent pas tout, loin de là, mais enfin, ils ont quand même une part dans la gestion. Et puis, c'est aussi une source énorme de liberté parce que la sécurité sociale, le régime général, va dissocier le salaire de l'emploi, va dissocier le salaire du travail subordonné pour lier le salaire à la personne même, la personne du retraité, la personne des parents, la personne du soignant hospitalier qui est fonctionnaire, qui a donc un salaire lié à la personne et non pas au contrat de travail. Dès lors que le salaire devient un droit politique de la personne, évidemment, on sort du chantage à l'emploi, on sort du chantage de l'obligation de poser un acte de subordination pour pouvoir être payé.
Alors, c'est CDI,
on se libère.
Est-ce que c'est l'enjeu de des contrats à durée indéterminée plutôt qu'un contrat à durée déterminée, et le fait qu'il y a de plus en plus de personnes qui sont hors contrat, c'est-à-dire qui travaillent, j'allais dire, à la tâche et qui n'ont plus cette sécurité sociale, plus également le fait que le chômage est de moins en moins rétribué, parce qu'on dit que c'est des fainéants, oui, ceux qui sont au chômage.
Oui, bien sûr, hein, c'est-à-dire que tout ce conquis qui libère les travailleurs du chantage à l'emploi en leur assurant un salaire lié à leur personne est très très combattu, hein, puisque la classe dirigeante n'est dirigeante que parce qu'elle dirige le travail. Hein. L'origine de la puissance, c'est la puissance sur le travail, parce que c'est le travail qui génère la valeur et donc l'argent. La classe dirigeante, elle n'est pas puissante parce qu'elle a l'argent. Elle est puissante parce qu'ayant le pouvoir sur le travail, elle a l'argent. Donc l'enjeu, ce n'est pas de lui piquer ses sous, hein, c'est de lui piquer son pouvoir sur le travail. Et pour ça, qu'en faut-il que les travailleurs ne dépendent plus d'un employeur pour exister. Que les travailleurs ne dépendent que d'eux-mêmes parce qu'ils ont des droits liés à leur personne et non pas à leur contrat de travail. Mais vous l'avez signalé très justement, il y a encore une situation plus mauvaise que celle d'avoir un contrat de travail, c'est la situation des auto-entrepreneurs, des travailleurs du clic, des livreurs de Deliveroo. Tout ça, c'est du travail indépendant qui est totalement aliéné, hein, qui n'est pas du tout un travail décidé par l'intéressé lui-même. Prenez le travail des exploitants agricoles, hein, qui font un travail qui est en fait déterminé par l'agro-business et qui en vivent très mal. Hein. Le travail indépendant, c'est la forme canonique du travail dans le capitalisme. Hein. Vous avez le travail indépendant qui est la forme canonique du travail. Vous avez l'emploi qui est un premier conquis, hein, où on est payé pour la qualification de son poste. Et puis vous avez le grand conquis qui est la fonction publique, la retraite comme droit au salaire, où là on est payé non pas parce qu'on a un contrat de travail, mais parce qu'on a une qualification qui nous est propre. Le salaire devient un attribut de la personne.
Alors vous renversez, je pense, les représentations que l'on se fait de certains travailleurs ou des travailleurs qui disent « nous sommes des victimes ». Et vous dites qu'au contraire, c'est une chance que nous avons déjà des droits.
C'est-à-dire que le capitalisme, il organise la précarité. Hein. Par le paiement à l'acte, hein, en payant pour l'activité réputée productive que nous faisons, on n'est jamais sûr, hein, que cette activité va être validée comme productive. Et donc, on est dans la précarité. Et cette précarité va être compensée, disons, par de la solidarité. Hein, de la solidarité.
Ou de la charité, c'est encore pire.
Avec les personnes qui ne parviennent pas à vivre de leur travail, comme on dit. Et donc, ils vont faire l'objet d'une solidarité avec la CSG, etc. Et effectivement, ça consiste à poser des personnes comme des victimes qu'il faut aider. Alors que ce qui a été conquis, ce qui est en cours de conquête au cours du XXe siècle, c'est qu'on sort complètement de la victimisation, on conquiert des droits liés à la personne pour tous, hein. Et qui supprime complètement les situations de pauvreté, de précarité, etc. C'est ça la dynamique. Alors c'est une dynamique qui n'est pas aboutie totalement. Hein. Ce sont des prémices, tout cela. Aujourd'hui, le tiers des plus de 18 ans ont un salaire lié à leur personne, qui ne dépend pas du tout des aléas du marché. Les 6 millions de fonctionnaires, plus de la moitié des retraités qui ont une pension égale ou supérieure au SMIC, en tout, ça fait 17 millions de personnes sur les 50 millions de plus de 18 ans que nous sommes, qui ont un salaire qui est un attribut de leur personne et non pas lié à l'acte de subordination qu'ils posent sur un marché du travail.
Alors, nous allons reprendre ces points parce que vous nous avez apporté une petite plage musicale et nous reviendrons après la pause sur ces points et ces droits des travailleurs. Thank you.
Ma foi, j'y crois, avec Benoît Petit.
Et Monsieur Bernard Friot, vous êtes sociologue et économiste du travail. Vous écrivez, j'allais dire, un livre par an, et entre l'enjeu des retraites, lorsque vous avez pris vous-même votre retraite, et Prenons le pouvoir sur nos retraites, paru l'année dernière, vous avez creusé ce sillon, creusé ce champ de la sociologie qui est non pas la solidarité, mais le pouvoir des travailleurs sur la sécurité sociale et sur la retraite. D'ailleurs, ici, nous avons aussi parlé d'une sécurité sociale de l'alimentation, parce qu'il ne s'agit pas seulement de la santé ou de la fin de vie, mais il s'agit du statut du travailleur dans tous les domaines de sa vie.
Oui, la hausse du taux de cotisation dans les années 60 a permis de mettre en place une sécurité sociale du soin. L'assurance maladie était richement dotée et elle a pu subventionner l'investissement nécessaire, énorme, pour construire les CHU, pour transformer les hospices en hôpitaux avec des lits actifs, créer des maternités, transformer les hôpitaux psychiatriques de l'aide sociale et faire passer de l'aide sociale à l'assurance maladie, en fait, etc. Toute cette mutation énorme s'est faite par une avance en salaire. En salaire socialisé, dans la cotisation sociale. Et nous pourrions évidemment transposer cette sécurité sociale du soin en sécurité sociale de l'alimentation, du transport, de la culture, de l'habitat. Enfin, toutes les productions pourraient être mises en sécurité sociale et sortir de la logique capitaliste. Oui, bien sûr, oui. C'est parce que précisément la production de soins dans les années 60 se met en place sur un mode non capitaliste, en plus avec des travailleurs qui sont fonctionnaires à la fonction publique hospitalière, que la classe dirigeante va s'acharner contre elle, privatiser, etc., etc., bien sûr.
Nous sommes dans le domaine des idéologies ou des représentations, donc avec peut-être ce qu'on pourrait appeler une lutte de classe ou une lutte entre des personnes qui ont des statuts différents. Alors, la question que je pose souvent à mes invités, ma foi, j'y crois, les questions, c'est d'une part la laïcité, en cela, en quoi ces représentations religieuses, c'est hautement politique et c'est assez différent, divergent. On a parlé à certains moments de la théologie de la libération. Vous avez vous-même fait des études en théologie. Et puis, donc, laïcité, première question. Et deuxième question, des livres dits révélés ou pour d'autres sacrés comme la Bible, est-ce que ça peut être à côté, alors je vais dire, du Capital ou d'autres livres d'économistes, un livre qui vous permet de méditer et de réfléchir sur la condition de l'homme et peut-être sur notre société actuelle avec ses contradictions?
La laïcité, moi, ce qui me frappe, c'est qu'elle est aujourd'hui récupérée complètement par la droite et l'extrême droite à des fins islamophobes, pour l'essentiel. On le voit très bien là, en permanence.
Foulard n'est qu'un des points.
Etc. Enfin bref, c'est un usage absolument indigne de la laïcité.
Séparation.
Qui stigmatise encore davantage des populations qui ont été colonisées. Tout ça s'appuie sur une culture coloniale qui est au cœur de l'extrême droite. La montée de l'extrême droite actuellement dans nos pays est liée à la culture coloniale. Et ça se traduit aujourd'hui par l'interdiction de désigner ce qui se passe à Gaza par son nom. L'interdiction de désigner le génocide en cours à Gaza par la politique coloniale de l'État d'Israël. C'est absolument interdit. Il y a eu deux mairies de la région de Toulouse qui viennent de faire une motion de soutien à Gaza. Le préfet leur demande de retenir le truc. Enfin, nous sommes dans un désastre des libertés publiques, évidemment.
Avec
lié, qui prépare la montée de l'extrême droite, ça c'est clair.
Ça, c'était pour la laïcité. Alors,
non, la laïcité, précisément, à construire, qui reste largement à construire, c'est la séparation de l'État et de croyances qui sont totalement religieuses, liées à la logique capitaliste. Il y a vraiment une religion capitaliste qui est complètement installée dans l'État et dont il faudrait que l'État se sépare pour que nous devenions enfin un pays laïque. Hein. Je parle de la religion qui dit que, je sais pas quoi, il faut une avance en capital pour pouvoir travailler, que le salaire ne peut arriver qu'après qu'on ait produit de la valeur. Enfin, je veux pas, j'ai pas le temps d'apprendre ça, mais en fait, tout ça relève de la croyance religieuse.
C'est ce que vous démontrez dans vos livres. Alors, en quoi le livre que vous préparez, justement, approfondit ces questions d'une représentation de Dieu pour vous ou d'une représentation de l'histoire des idées depuis, le premier siècle de notre ère avec les évangiles et les lettres des apôtres. Vous faites le lien dans votre réflexion.
Ah ben, de fait, la foi chrétienne est centrale dans mon existence, hein, en termes de rencontre de la Trinité, hein, c'est-à-dire d'un Dieu qui n'existe que dans la, non pas dans la domination, dans la souveraineté, dans la puissance, etc., mais que dans en permanence un lien d'amour et dans la pauvreté finalement que suppose tout lien d'amour pour que l'autre devienne un absolu, hein, pour que l'autre soit un absolu, qu'il ne soit plus un instrument. Hein. Spontanément, l'autre, c'est un instrument, y compris dans le couple, hein, pour qu'il devienne un absolu, qu'il devienne vraiment l'autre. Hein. Cette altérité, hein, il faut un infini d'amour. Et c'est la rencontre de Trinitaire qui nous permet, qui m'a permis à moi. Je pense qu'il y a d'autres chemins, hein, bien sûr. Hein,
dans et vous le vivez...
Qui m'a permis de sortir, hein, de la croyance dans un ciel qui nous consolera demain et de poser la foi chrétienne comme l'acte par lequel nous faisons un monde autre aujourd'hui.
Hein. Et vous le vivez en Église, je voulais vous demander, mais en même temps, vous le vivez aussi à travers des chanteurs qui vous inspirent. Je crois que vous vouliez, pour conclure, parce que le père Duval vous a beaucoup aidé.
Oui, ben là, c'est le Vosgien. Hein. Moi, je suis Vosgien des années 50.
Qu'est-ce que j'ai dans ma petite tête? Et puis, Seigneur, ouais, mon ami, et vous pouvez même chanter.
je ne vais peut-être pas me lancer, mais en tout cas dire, c'est, de temps en temps me vient me revient souvent. Hein, qu'est-ce que j'ai dans ma petite tête à rêver comme ça le soir d'un éternel jour de fête, d'un grand ciel que je voudrais voir? Et voici que Jésus m'a surpris. Que fais-tu là à m'attendre, mon ami? Ton ciel se fera sur terre avec tes bras. La foi chrétienne, c'est de l'action pour vivre le présent, hein, comme une éternité. Hein. L'éternité, c'est le fait de prendre au sérieux le présent et d'y agir dans la mouvance de l'initiative trinitaire. Hein.
Et on sent aussi que vous êtes convaincu et que cela vous rend heureux, ce combat à la fois syndical et politique. Et c'est le psaume 1, je crois, que vous aimez beaucoup aussi redire. Heureux, heureux celui qui marche dans les voies du Seigneur, heureux, comme un arbre planté près d'un cours d'eau.
Voilà, hein, il y a cette espèce de sérénité très profonde, hein, vraiment une sérénité très profonde, de s'inscrire dans la dynamique trinitaire.
Le Seigneur est mon ami, c'est pas seulement peut-être un père.
Ah ben, Seigneur,
qui
mon ami, tu m'as pris par la main, j'irai avec toi sans effroi jusqu'au bout du chemin. Tout ça, c'est le père Duval. Oui.
Merci Bernard et merci à Christophe pour l'enregistrement.